Bonjour, bienvenue dans Estivalitude et j'aimerais simplement ce matin vous rappeler la règle du jeu, de notre jeu d'été. Dans la chaleur estivale, on ne se connaît pas nécessairement, on se croise, on se rencontre et c'est la magie des vacances en somme. Estivalitude est donc une petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, comme on dit ça.
Formidable.
Jake Lamar, vous êtes un écrivain américain et vous avez envie ce matin de nous parler d'un feuilleton radiophonique dont vous êtes l'auteur, Viper's Dream, le rêve de la vipère, je traduis, récemment diffusé sur France Culture. Bonjour Jake Lamar.
Bonjour Christophe.
Simon Gréchy, vous vous êtes imposé en peu d'années comme un pianiste virtuose et important dans votre dernier disque, 33, dites 33, vous évoquez les failles d'un trentenaire, ce qui ne vous empêche pas de multiplier les récitals aux quatre coins de l'Europe. Bonjour Simon Gréchy.
Bonjour.
Vous l'aurez saisi ce matin, les artistes n'ont pas de patrie et sont des citoyens du monde. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ?
Christophe Bourseiller.
Jake Lamar, je vous vois boire un petit peu d'eau. Nous, on est au café avec Simon Gréchy parce que sinon, lundi matin...
J'ai déjà bu un pot de café à la
facile,
maison.
Hein. Vous aviez entendu parler de Simon Gréchy, Jake Lamar?
J'ai découvert hier. J'ai écouté son interprétation du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven au piano.
Ah, oui.
J'étais bouleversé.
Ah, oui.
Et Christophe, peut-être vous vous souvenez que quand j'étais invité à votre émission La France Musique.
Ah, il y a quelques années.
Il y a quelques années.
2012, si je me souviens bien.
Exactement, mais j'ai cité ce morceau de Beethoven en tant que mon morceau préféré de la musique classique. Et votre interprétation, Simon, c'était bouleversant, magnifique.
Merci beaucoup.
Bravo.
Merci.
Alors, Simon Gréchy, vous connaissiez un petit peu les livres de Jake Lamar ou pas du tout? Soyez franc.
Très honnêtement, non.
Non. Mais, vous n'avez pas lu Le Caméléon Noir, Les Fantômes de Saint-Michel, Rendez-vous dans le 18e? Non.
J'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans le 18e, en tout cas.
Si vous allez pouvoir le faire après l'émission, bien tranquillement, à Paris, bien sûr. J'ai l'impression que votre point commun à tous les deux, c'est l'expatriation, d'une certaine façon. Pourquoi avez-vous choisi de vivre en France, Jake Lamar?
Oh, j'étais inspiré par tous les auteurs américains qui sont venus à Paris avant moi. Au lycée, j'ai lu Richard Wright, James Baldwin, Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, Henry Miller, c'est toute une liste. Et donc, quand je suis arrivé à Paris en 1993, j'ai pensé que j'allais rester pour un an. Mais j'ai adoré la ville tout de suite. Après 3 ans, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et bon, après 26 ans, je suis toujours là.
C'est ça, c'était un voyage littéraire que vous avez fait à Paris. Et vous êtes au fond à Paris pour des raisons littéraires. C'est ça un peu ce que vous me dites.
Ça, c'était ma première inspiration, absolument.
Et vous, Simon Gréchy, qu'est-ce qui a poussé... Alors, on va parler plus en détail de votre parcours biographique. Mais qu'est-ce qui a poussé votre famille à quitter le Liban où vous êtes né?
Ils ont quitté le Liban à cause de la guerre. La guerre civile. Je suis né en 85.
Ouais, ouais.
Et donc, c'était une sorte de trêve dans la guerre. Et puis en 89, ça
a redémarré
de plus belle. Et la France est une terre d'accueil pour les Libanais parce qu'on est francophone, parce que ça a toujours été une terre d'accueil. Et on s'est trouvé, en tout cas, je me suis trouvé une place à Paris où je me sens français. Enfin, je suis devenu naturalisé français. Je suis citoyen français, comme Libanais, comme Mexicain. Mais je me sens avant tout profondément parisien et profondément français par cette terre d'adoption.
Vous aviez quand même sorti il y a quelques années un disque qui s'appelait, je crois, Héritage.
Absolument.
Dans lequel, justement, vous jouiez des compositeurs étrangers, cosmopolites. On pourrait dire qu'était un hommage à vos racines qui sont amusantes et complexes puisque vous êtes à la fois d'origine libanaise par votre père, mexicaine par votre mère, et puis française par l'adoption.
Par l'adoption et par la culture.
Mais
Héritage, c'était une sorte de parcours musical de mes propres origines, oui.
Jake Lamar, vous êtes déçu par la France? Je veux dire, vous détestez l'Amérique de Trump, je le sais, mais la société française, elle peut sembler un peu déchirée, non? Il y a la montée du populisme. Finalement, vous êtes rattrapé par des démons qu'on croyait cantonnés à.
En fait, je dirais que c'est un moment précaire pour le monde entier, politiquement. Aux États-Unis, en France, en Europe en général, Brésil. Non, je pense que c'est un moment très tendu partout.
Oui. Et la situation en France, ça vous inquiète? Il y a des choses qui vous inquiètent ou vous dites c'est quand même un pays formidable?
Je pense que c'est un pays formidable, mais bien sûr avec les troubles qu'on voit ici, j'ai peur pour l'avenir. Oui, absolument.
Et vous, Simon, vous parlez pas beaucoup politique. Hein, vous faites plein de choses. Vous êtes un homme très actif. Mais alors sur cette question, l'avenir de la France, tout ce qu'on voit, la montée du populisme, vous avez une réflexion ou pas du tout?
Bien sûr que j'ai une réflexion, parce que je suis un citoyen qui vit dans un pays et qui se rend compte au quotidien de la complexité de ce qui se passe dans ce pays. Et je suis mitigé. Parfois, je me dis que tout va bien dans le meilleur des mondes et que quand même on a de la chance de vivre en France malgré tous ces troubles. Et parfois, effectivement, je suis un peu inquiet. Et je n'exclus pas, dans un avenir plus ou moins proche, d'envisager la vie ailleurs.
Vous voulez partir?
Pourquoi pas? Je ne sais pas. Oui, c'est une question que je me pose quand je vois ces tensions et quand je vois la profondeur des tensions et à quel point, parfois, c'est un point de non-retour. Je me dis que peut-être, d'ailleurs j'ai tenté un petit peu la vie ailleurs parce que j'ai passé un peu de temps, au moins 3 ans in and out à New York aux États-Unis et ça m'avait beaucoup plu, mais la France m'avait beaucoup manqué aussi, donc c'est paradoxal, je sais pas.
Jack Lamar, vous êtes l'auteur, il faut le dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez eu la gentillesse de venir ce matin sur France Inter, vous êtes l'auteur d'un feuilleton radiophonique, alors c'est quand même génial d'écrire des feuilletons radiophoniques en 2019, qui s'appelle Viper's Dream, alors c'est le rêve de la vipère en anglais, et c'est, je crois, une référence à Django Reinhardt. Alors je voudrais qu'on écoute quelques arpèges de Django dans Viper's Dream. Ça nous rajeunit pas, dites donc. Hein. C'était Django Reinhardt en 1937 dans Viper's Dream. Alors concrètement, votre feuilleton, c'est l'histoire d'un nommé Clive Morgan. D'abord, il faut préciser que votre feuilleton radiophonique Viper's Dream a été diffusé ce printemps sur France Culture.
Hein, exactement.
C'est ça,
hein. Oui.
Alors ça raconte l'histoire d'un nommé Clive Morton qui s'appelle Viper, la vipère. Alors en peu de mots, que vit-il et qui est-il?
Oui, en fait, c'est un policier dans 10 épisodes. Et ça part d'un gangster noir à Harlem entre 1936 et 1961. Et Clyde Viper Morton, c'est le grand fournisseur de marijuana aux jazzmen à New York. Et dans l'argot ancien, une vipère était un fumeur de marijuana.
Ah bon?
C'était le son quand on tire son
joint. Ah donc le rêve de la vipère de Django Reinhardt, c'est le rêve du fumeur de marijuana.
Exactement. Il y a plusieurs chansons avec des références aux vipères à l'époque. Fats Waller a une chanson qui s'appelle Tu es vipère when you're a viper, et donc c'était un secret entre les musiciens de jazz.
Alors on va écouter un extrait de Viper's Dream, le feuilleton.
Le club était plein à craquer, mais Bird lui-même était introuvable. Les Jazz Messengers jouaient sur scène. J'ai vu Dizzy Gillespie assis à une table, entouré de sa cour. Diz portait son béret habituel et ses lunettes en écailles de tortue. Il m'a salué d'un hochement de tête et d'un clin d'œil lorsque je suis passé à côté de sa table. Dans un coin, j'ai aperçu Thelonious Monk, un grand chapeau à fourrure russe sur la tête. À ses côtés, une élégante femme blanche aux cheveux noirs fumait une cigarette avec un porte-cigarette noir. Elle a souri et m'a fait signe de venir les rejoindre. On ne s'était jamais encore rencontrés, mais je savais qui elle était. Les jazzmen m'avaient parlé de son arrivée sur la scène depuis des mois.
Viper Morton, je suppose.
Baron de Rothschild.
Rothschild est mon nom de jeune fille. Mais je vous en prie, appelez-moi Nika.
Salut, Monk.
Hey, quoi de neuf, Viper?
Alors ça, c'est l'héroïne. C'est un peu l'ambiance fin de nuit à 9h18 du matin avec vous. Hein. Simon Gréchy, vous écoutez du jazz?
Ça m'arrive.
Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans le jazz? Vous êtes free jazz? Vous êtes là, c'est le vieux jazz là qu'on vient d'entendre.
Justement, c'est ce que je préfère, le vieux jazz. Et j'aime bien le côté instantané dans le jazz. Chose que nous, enfin, c'est un petit peu à la fois notre fantasme et notre rêve, nous musiciens classiques, de partir d'une partition existante où chaque élément est là, et chaque élément à la fois visuel, harmonique, mélodique, est écrit, et de pouvoir trouver cette légèreté et ce côté improvisé quand on joue la partition sur scène.
Vous aimez improviser?
J'adorerais improviser, ouais, mais je n'ai jamais appris ça. C'est une science. C'est toute une science à part qu'on devrait maîtriser, qu'on devrait voilà déployer et apprendre. Ça ne s'improvise pas. D'improviser.
D'improviser, ça ne s'improvise pas.
J'ai écouté plusieurs morceaux, oui, plusieurs interprétations que, oui, vous avez fait, et moi j'ai entendu une influence de jazz. C'est là où j'ai imaginé.
C'est mon sang latino. C'est le rythme latino qui.
Voilà.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothe me. Your guys, all you told me really was a lie of me. Darling, you hurt me. Shadow won't help me, baby. Shadow sounds low on the baby. Shadow it's awfully empty.
Là, je vous donne un petit cours rapide. Découverte par Damon Albarn, elle fut d'ailleurs la choriste de Blur, la jeune londonienne Alani passe pour un phénomène vocal, sa voix s'étendant, paraît-il, sur 4 octaves. C'était Chalala.
Estivalitude sur France Inter.
Simon Gréchy, votre dernier disque sorti cette année en 2019 a un nom assez formidable parce qu'il se nomme 33. Alors, est-ce que c'est en hommage à votre âge ou à celui du Christ?
Certainement, c'est pas celui du Christ.
Ah bon?
Non, je n'ai aucune croyance. Mais c'est mon âge, c'est 33 parce que c'est le fruit d'une introspection, ouais, d'une longue introspection qui a duré environ 2 ans. Autour de la pièce majeure de ce disque dont on va reparler plus tard, l'humoresque de Schumann.
On va en parler maintenant.
Oui, cette tout à fameuse fait. Voix intérieure.
Alors justement, on va écouter un extrait tout, oui, de suite, un des mouvements de humoresque.
Mmh.
Ah, c'est extraordinaire. Donc là, on écoute un petit extrait, évidemment, oui, assez court, malheureusement, de l'humoresque de Robert Schumann. Alors, qu'est-ce que c'est cette pièce et pourquoi vous l'avez-vous choisie, Simon Gréchy?
Alors, humoresque en allemand, c'est contrairement à la langue française, ça n'est pas en lien avec l'humour, mais avec les sauts d'humeur. Et donc, ouais, tout le long de ce morceau, qui dure environ 30 minutes, sur 8 mouvements, 7 mouvements et un épilogue, Robert Schumann fait des sauts d'humeur. Il était, de toute façon, c'est un marque de fabrique, les sauts d'humeur.
Un peu cyclotimique.
Il était, je sais pas s'il était cyclotimique, s'il était,
un peu schizophrène,
torturé. Voilà. Il avait, en tout cas, des problèmes psychologiques qui ont atteint, leur sommet en 1853, quand il s'est jeté dans le et quand on l'a repêché, mais on l'a repêché Robert et non pas Schumann. Schumann, le compositeur, est resté au fond du Rhin.
Ah, oui.
Et Robert, il a été sauvé. Il a passé 3 années végétatives avant son décès. Il n'a plus rien produit. Et 20 ans plus tôt, quand il composait cette humoresque opus 20, il se trouve que sur la partition, quand maintenant on achète la partition pour la jouer, on retrouve dans le deuxième mouvement une voix un petit peu mystérieuse, écrite entre la voix de la main droite et la voix de la main gauche. La partition habituelle, la ligne, ouais, par la main droite, ouais, la ligne par la main gauche.
Bah oui, quand on joue du piano,
exactement,
il y a la main droite, la main gauche.
Il y a la main droite, la main gauche.
Et là, il y a une troisième main.
Exactement. Il y a une troisième main. Robert Schumann rajoute une troisième voix entre les deux, qu'il surnomme en allemand die innere Stimme, la voix intérieure, et qu'il demande expressément au pianiste de ne pas jouer, mais de la chanter dans sa voix intérieure.
Et c'est un morceau qu'il faut chanter dans sa voix intérieure.
Qu'il faut chanter intérieurement. Après, qu'est-ce que ça veut dire de chanter dans sa voix intérieure? Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose à l'interprétation? Le fait de chantouiller ces quelques lignes de piano, de mélodie pendant qu'on joue, je ne pense pas.
Vous l'avez fait? Vous avez chanté?
J'ai tout essayé. Oui. Je l'ai chanté, dans ma voix intérieure comme extérieure. Mais, pour comprendre aussi de quoi il s'agit. Et voir comment ça rentre en interaction avec l'harmonie et avec tout le reste qui est écrit. En revanche, je me suis rendu compte que c'était plus une attitude que Robert Schumann demandait au pianiste d'adopter, plus que juste de chantouiller quelques notes, une attitude introspective pour se recueillir et se mettre un petit peu dans les bottes de Schumann qui entendait des voix à ce moment-là.
Alors que vous dit votre voix intérieure, Simon Gréchy?
Il me raconte beaucoup de choses.
Ah oui,
j'imagine. De tout genre. Tantôt, elle me raconte des choses musicales, tantôt extra-musicales, tantôt ce que je vais manger ce soir ou je vais voyager demain.
Bon, ma voix intérieure me dit ça aussi, parfois.
Ouais, voilà. Donc c'est très variable, c'est très variable. Et tantôt, on part dans des terrains très obscurs et très profonds, tels que tout ces terrains qui ont inspiré 33.
Jake Lamar, votre voix intérieure, elle vous dit quoi ce matin, là, par exemple?
Oh, j'ai plusieurs voix intérieures.
Ah bon, vous en avez plusieurs, vous?
Je pense que les romanciers.
C'est pire que Robert Schumann.
Je pense
alors.
Que les romanciers, les auteurs de la fiction, je pense qu'on entend des voix. Hein, c'est un aspect un peu bizarre et mystérieux de l'écriture, mais certainement, j'entends les voix de mes personnages sur Viper's Dream. Un des moments le plus excitant pour moi était d'avoir les acteurs incarnent les voix que j'avais dans ma tête. Et c'était une distribution magnifique dans cette série radiophonique.
Voilà.
Mais c'était l'incarnation des voix que j'ai déjà entendues.
Voilà, alors Jacques Lamar entend des voix, Simon Gréchy entend une voix intérieure qui est plus musicale. Alors vous évoquez aussi dans ce disque des choses très, très précises et très personnelles. Vous évoquez, je crois, si j'ai bien compris, une phobie de l'eau liée à un traumatisme issu de l'enfance.
Oui.
Vous pouvez nous en parler?
Un peu, pas trop. Mais effectivement,
ouais,
j'ai un traumatisme que j'ai vaincu ou que je suis sur la voie de vaincre. Mais pendant très longtemps, j'étais traumatisé de l'eau. J'ai mis plusieurs années avant d'être emmené à la plage, avant d'avoir un rapport normal avec l'eau, parce que voilà, j'ai perdu dans un accident aquatique des personnes de ma famille.
Ouais.
Très proche. Et du coup, j'avais quelques mois à ce moment-là et j'ai grandi avec ces fantômes aquatiques.
Comme le philosophe Pascal, vous savez qu'il avait la phobie de l'eau également. C'est votre point commun que vous avez avec un grand philosophe.
Et progressivement, je m'en suis sorti avec la musique. En quelque sorte, c'est la musique et la musique aquatique, la musique qui parle de l'eau, qui m'a fait faire le premier pas. Et puis, littéralement, je me suis jeté à l'eau.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez donc 33 ans,
oui, hein,
c'est ça, parce que 33 fait aussi référence à votre âge.
Oui.
Et vous êtes né au Liban, on pourrait dire, dans une famille un peu bourgeoise, ou est-ce que c'est un cliché?
Je n'aime pas ce qualificatif, mais
ouais,
vous pouvez dire ce que vous
voulez. Non, mais je vous pose la question. Votre oui, père est libanais, votre mère mexicaine.
Je préfère une famille cosmopolite, oui, une famille cosmopolite. Père avocat, une mère psy, père libanais avocat. Effectivement. Mais je préfère qu'on dise plutôt une famille cosmopolite et une curieuse famille.
Ce qui est sûr, c'est que vous êtes vous-même quelqu'un de curieux. Je ne sais pas comment votre famille était, mais j'ai assisté à un de vos concerts qui était, si je me souviens bien, à la Banque de France. Ah, c'était un très beau moment.
La Galerie Dorée.
Et voilà, dans une salle magnifique, et entre à Paris, et entre chaque morceau, vous sortiez de scène pour re-rentrer aussitôt.
Ah bon?
Oui.
Mais c'est parce que je me souviens très bien du concert. Il faisait hyper chaud je devais me rafraîchir un petit peu parce que le répertoire que je jouais étant vous voyez c'est ça que parfois voilà qui m'angoisse un petit peu dans le milieu de la musique classique, le fait que sur scène on n'ait pas la liberté de faire ce qu'on veut, de pouvoir se rafraîchir comme font parfois les musiciens de jazz ou dans la pop ou le rock où ils ont leur petit coin rafraîchissement sur scène, ils peuvent aussi prendre la parole et s'adresser au public. Et moi je milite.
C'est plus guindé dans le classique, c'est beaucoup plus guindé, c'est ça.
Surtout dans les sens, sans vouloir dire du mal, parce que j'adore cette salle, un petit peu dans le cadre où vous êtes allé m'écouter. Oui, effectivement, on pouvait pas atteindre plus haut.
Mais il paraît que vous aimez changer de tenue pendant les concerts. Il paraît que j'ai lu ça dans un article.
Et vous y voyez un problème?
Non, je trouve ça très sympathique. Non, mais je trouve ça très sympathique. C'est une
non,
très
mais écoutez,
idée.
Je trouve que d'une part, c'est d'un point de vue très, oui, effectivement, on avait titré une fois Simon Grechy, pianiste ou mannequin. Loin de là, je pense juste que pourquoi une femme, une pianiste femme ou une chanteuse pourrait prendre le luxe de changer trois fois de robe pendant la soirée, et un pianiste homme devrait uniquement s'habiller en ce que j'appelle pingouin. Donc,
les pingouins. Pourquoi les pianistes classiques ont-ils toujours l'impression d'avoir avalé un parapluie? Ah, c'est la question. Hein. Alors oui, je sais, ce n'est ni du classique, ni du jazz, mais il faut parfois frapper à la porte du paradis. Et voici Bob Dylan.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, chef-d'œuvre absolu, ça date de 1973.
Estivalitude, Christophe Bourseiller sur France Inter.
Et mes invités ce matin, l'écrivain Jack Lamar et le pianiste Simon Grechy. Alors Simon, j'ai appris plein de choses sur vous, là vraiment, c'est assez étonnant. J'ai appris que vous aimez les treks sur des volcans en activité à 6000 mètres d'altitude parce que, alors je cite, il est impossible de parler en raison du manque d'oxygène.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai.
Pourquoi ?
Qu'on peut pas parler en raison du manque d'oxygène.
Donc ça vous plaît, ça ?
Ouais, je me souviens de la petite anecdote. Le dernier que j'ai fait, c'était au Chili. Pour l'anecdote, il s'appelait le Lascar. Le mont Lascar.
C'est un beau nom.
C'est un
beau
nom.
Vous avez escaladé le Lascar.
J'ai escaladé le Lascar.
Revenons
au volcan. Donc, le guide, la première, je sais plus parler du coup.
Ouais, alors, donc, vous avez escaladé ce mont.
La première directive du guide, c'était qu'il ne fallait absolument pas parler, qu'il fallait regarder ses pointes des pieds, ne pas regarder en arrière parce qu'on tombe, et ne pas regarder en avant le sommet de la montagne parce que sinon on croit qu'on va jamais y arriver. Et donc, c'est une escalade pendant 6 à 8 heures. Une sorte de méditation silencieuse, pas par pas, en regardant ses pointes des pieds, ses orteils.
Et c'est un peu comparable au travail que vous pouvez effectuer quand vous attaquez cette montagne qui est une grande œuvre classique.
Absolument, tout à fait. Parce que pour continuer sur le trek, une fois qu'on arrive, une fois qu'on a traversé tout ce trek, ces heures de souffrance, de méditation, de silence, d'angoisse, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, et qu'on atteint le sommet de la montagne, et c'est, comme vous dites aux États-Unis, it's larger than life. Mmh. Voilà. Et pareil pour une partition de musique, quand on commence à la décortiquer du point zéro et qu'on a l'impression d'être complètement perdu dans les pensées du compositeur, dans le message qu'il a laissé, dans la virtuosité que parfois on n'arrive pas à vaincre, et d'un coup, après des mois de travail, on y arrive, on monte sur scène pour la première fois pour la jouer. It's larger than life.
Larger than life. Alors, dans votre disque 33, il y a un duo avec Chili Gonzalez,
oui.
Personnage qui a travaillé avec les Daft Punk, personnage aux confins des genres musicaux. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait de ce morceau. Robert on the Bridge, c'est ça ? Donc un extrait de votre disque 33. Pourquoi ce morceau, Simon ?
Robert on the Bridge, c'est un morceau que j'ai commandé à Chili Gonzalez, que je connais personnellement. Ouais. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire ce qu'il fait, j'admire le personnage complètement décadent. Et du coup, je lui ai passé cette commande pour se mettre un petit peu dans les bottes de Robert Schumann, mais d'un point de vue, d'un angle pas forcément classique, parce que ce n'est pas un musicien classique.
C'est ça.
Et Robert on the Bridge, parce que, suite à l'anecdote que je vous ai racontée de Robert Schumann qui a sauté du pont au-dessus du Rhin, qui a fait ce plouf avec lequel se termine ce morceau dans le Rhin, et après on l'a repêché, etc. Et je lui ai demandé de prendre la mélodie de cette voix intérieure, de la mettre comme une voix extérieure. Les premières notes de Robert on the Bridge sont la mélodie et la mélodie de la voix intérieure de Schumann. Donc c'est une sorte d'hommage à Schumann vu par Chili Gonzalez.
Et une critique de la société du spectacle, parce que le disque, sachez-le, Jake Lamar, le disque de Simon Gréchy se termine par la musique du film Truman Show, c'est ça ? Pourquoi ?
Parce que dans toute cette introspection, je trouvais que cette espèce de départ, de raising the sail, de partir sur l'eau encore une fois.
Et qui était le compositeur ?
Philip Glass.
Ah,
oui,
j'adore.
Oui.
Ouais. Simon, Jacques justement, Jake Lamar, je crois que vous avez une question pour Simon. Et ce serait peut-être le moment de la poser, je pense.
Oui, ma question est, à part du talent naturel, quelle est la qualité la plus importante pour un musicien ?
Mais déjà, le talent naturel, c'est un bon début si on l'a. C'est une qualité essentielle
et primordiale.
L'humour.
L'humour.
Oui. Pour ne pas trop se prendre au sérieux. Parce que c'est une des premières leçons que j'ai apprises.
Ne pas se laisser submerger par le pathos.
Exactement. De savoir toujours trouver de la légèreté là où il n'y en a pas, ou là où c'est très difficile d'en trouver. Je pense que c'est une qualité essentielle pour un musicien du 21e siècle. Enfin, de tous les temps, mais là, moi je parle de la période que je connais, dans laquelle je vis. Et je pense qu'avoir beaucoup d'humour peut détourner beaucoup de situations qu'on a envie de détourner, qui ne sont pas forcément plaisantes.
Alors, Simon Gréchy, vous avez également une question pour Jake Lamar. Laquelle est-ce ?
C'est un registre très différent. Donc, j'ai appris à vous connaître ce matin que vous avez, en 1996, publié votre roman phare, Nous avions un rêve. Et la question est-ce que ce rêve, aujourd'hui, en 2019, est-il toujours d'actualité ?
Ouais, en fait, ce livre, j'étais très influencé par 1984 de George Orwell, et je voulais présenter un scénario cauchemardesque pour l'avenir de la politique raciale aux États-Unis. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer un président noir. Hein. En fait, mon personnage était en train d'être la vice-présidente.
Et pourtant, votre père voulait que vous soyez le premier président noir.
En fait, mon père, qui est grandi très pauvre dans le sud des États-Unis, il avait une vision plus optimiste que la société américaine, que la mienne. Et en fait, finalement, j'ai exactement le même âge que Barack Obama, qui était élu 12 ans après la publication de ce livre. Et j'ai pensé que peut-être avec la présidence d'Obama, mon livre serait un peu daté. Mais en fait, l'élection de Barack Obama a provoqué une nouvelle tension raciale aux États-Unis, et je pense que mon pays est toujours dans le contre-coup envers Obama. Je pense qu'il y a beaucoup de Américains blancs
qui ont été traumatisés par l'élection d'Obama.
Oui, leur vision de leur univers était détruite. Et je pense que maintenant, avec la présidence de Trump et toute la tension raciale aux États-Unis en ce moment, nous sommes toujours dans cette espèce de contre-coup envers ce traumatisme pour les Américains blancs, l'élection d'un homme noir.
Ça veut dire qu'en gros, il y a un mouvement de balancier aux États-Unis. Alors, l'Amérique avance, fait un grand pas en avant en élisant Obama, et puis trois pas en arrière en élisant Trump, c'est ça?
Oui, je dirais. Oui. Et j'ai toujours l'espoir pour l'avenir, surtout à cause de la démographie. Je pense que dans 50 ans, il y aura plus d'Américains qui ressemblent à Barack Obama que les Américains qui ressemblent à Donald Trump. Et je pense que la démographie me donne l'espoir.
Il y a une très jolie phrase de Simon Grechy, parce que lui, il est l'incarnation d'une génération là qui bouscule les codes de la musique classique, en disant « Le piano doit rester sauvage, déchaîné, animal ».
Oh là là, tout un programme.
Ah oui, c'est vous ça.
Oui, c'est moi.
Vous êtes sauvage, déchaîné, animal.
J'ai pas dit le pianiste.
Ah d'accord, je n'avais pas compris. Alors on est le matin, bien sûr, mais je vous propose une chanson de fin de nuit. Et pourquoi pas, c'est une légende de la chanson européenne, le Belge Arnaud. Voici Ostende Bonsoir.
On se promène comme tous les soirs. On se dit rien. On va de bar en bar. Ça rime à rien. Comme tous les soirs, je suis seul avec toi. Ostende, bonsoir. Spiriade allume la digue. Comme tous les soirs, aux couleurs nostalgie. Aux couleurs désespoir, il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Ostende, bonsoir. Seul avec toi. constante comme tous les soirs. De bière en bière et d'histoire en histoire. Salut Maria, comme tous les soirs. C'est pas grave demain, sera un autre soir. Oh, c'est pas grave demain. Boston, bonsoir.
La belle nostalgie du chanteur Arnaud, Ostende bonsoir, une programmation flamande décalée caniculaire de Muriel Pérez.
Vous avez dit,
Ah non,
de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
En France, je pense qu'il y a plus d'un racisme institutionnel. Et ça, c'est le paradoxe. Aux États-Unis, les relations intimes sont toujours un peu conflictuelles, mais il y a des opportunités. En France, il y a moins d'opportunités, mais les gens sont plus à l'aise dans leur vie quotidienne.
Comment ça, Jack Lamar? En France, il y a un racisme institutionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je dirais qu'il est plus difficile en France qu'aux États-Unis pour quelqu'un qui est en minorité, disons, comme on dit, quelqu'un noir, d'être admis dans une des grandes écoles, de devenir avocat, devenir médecin, devenir homme d'affaires. Je pense que c'est plus facile aux États-Unis, grâce au mouvement pour le droit civique, grâce à l'appréciation de la diversité dans la société.
Mais parce que la France est un pays plus conservateur.
Je dirais que la diversité n'est pas encore aussi valorisée en France qu'aux États-Unis. Et je pense qu'il faut commencer avec la volonté d'avoir la diversité dans une université, dans une entreprise, de accepter l'idée que la diversité c'est bonne pour la société. Et je pense que la France n'est pas encore là. Aux États-Unis, même quand les juges, par exemple, à la Cour suprême, même quand ils sont contre les quotas et la discrimination positive, affirmative action, quand on dit aux États-Unis, ils sont toujours pour l'idée que la diversité, c'est une bonne chose. Et ça, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Je dirais pour la santé de la société.
Simon Gréchy, dans votre public, il y a des gens que vous rebutez, à la fois par vos origines libanaises et mexicaines, et puis par votre look, puisqu'il faudrait vous décrire. Hein. Vous avez des cheveux bouclés, un peu comme, on va dire, Prince, vous avez une grande barbe, ouais. Vous êtes plus un côté hippie qu'un côté joueur de musique classique ou virtuose.
Rebuté, je sais pas, j'espère qu'ils ne viennent pas m'écouter si je les rebute, parce que ça sert à rien de s'infliger une telle torture, mais je pense que il y en a qui sont un peu mitigés effectivement quand ils me découvrent pour la première fois, parce que on vit malheureusement dans un monde de clichés. Et or, vous le dites vous-même dans cette description Wikipédia que vous faites de moi.
Ah, je n'ai pas lu Wikipédia.
Non, pas
je
du
suis
tout.
Désolé.
Cette version format Wikipédia.
Non, mais je vois ce que vous voulez dire.
Voilà,
oui.
C'est vrai que on n'y retrouve pas forcément les clichés qu'on attend d'un musicien classique. Donc peut-être que la première écoute est parfois un peu suspicieuse, en mode, oh là là, mais est-ce qu'il sait vraiment jouer du piano?
Et quand on a des cheveux longs, peut-on jouer du piano? Vous voyez, question fondamentale.
C'est effectivement quand on est aussi franco-libano-mexicain, est-ce qu'on sait vraiment jouer Beethoven? On devrait pas plutôt chanter Shakira? Enfin, j'exagère, mais vraiment, on en est un peu là parfois. Et heureusement, pour l'instant, je suis très heureux de savoir que beaucoup de gens ont changé d'avis.
Vous avez joué en Simon Gréchy en juin 2014, oui, devant les militaires français et américains stationnés à Bamako au Mali.
Ouais, c'était ma parenthèse Marilyn Monroe.
Oui, vous avez joué votre Marilyn Monroe.
Ouais, j'ai donné effectivement 3 concerts à Bamako, co-organisés par l'ambassade de France et des États-Unis, donc dans la MINUSMA, la mission pour les Nations
vous
Unies.
Vous êtes allé soutenir nos troupes.
Donc exactement, c'était C'était le but, et c'était un moment exceptionnel à la fois pour moi et pour eux. Il y avait chef des armées, il y avait un public de diplomates, mais de militaires aussi qui m'appelaient tous "Hi sir" après le concert. C'était intimidant et à la fois très très fort. Et non, c'était un moment exceptionnel parce que ils s'attendaient à tout. Enfin, c'était une initiative des ambassades, mais ces troupes s'attendaient à tout, sauf un concert de piano en plein milieu de leur mission là-bas.
Ah bah j'imagine. Jake Lamar, vous avez été journaliste à Time Magazine.
Oui, pendant les années 80.
Ouais, vous y faisiez quoi?
En fait, j'ai écrit sur la politique américaine.
Ah ouais?
Et à l'époque, Time Magazine avait un système un peu curieux. Il y a des écrivains à New York et des grands rapporteurs dans le monde entier. Et donc, j'ai reçu des reportages de journalistes au Moyen-Orient ou à Washington D.C. ou Nicaragua. Ouais, j'étais dans mon bureau à New York et j'ai mélangé tous les reportages. J'ai écrit des articles dans le fameux style de Time Magazine, le Time Style. Oui, c'était mon premier boulot.
Il paraît qu'on vous a dit, paraît-il, tu es trop blanc pour les noirs et trop noir pour les blancs.
Oui, ça c'était mon sentiment aux États-Unis. Oui, exactement. Ça c'était une des ironies de l'intégration qu'on trouve que on ne sait pas votre place dans la société. Et quand j'ai écrit ça c'était dans mon premier livre. Le titre est Bourgeois Blues en américain, Confession d'un fils modèle
en français.
Et
moi je préférais Bourgeois Blues que
Ouais, moi aussi, ouais. Mais c'était pas ma décision. Mais à l'époque, j'étais très frustré, hein. J'avais 30 ans quand j'ai publié ce livre. Et je pense que finalement, maintenant, j'ai 58 ans et j'ai trouvé ma place, ma place dans l'univers et en tant qu'écrivain. Je pense que c'est l'écriture qui me donne un sens de la vie. C'est en tant qu'écrivain que je comprends le monde et c'est au-delà d'une identité raciale ou nationale.
Alors, je vous ai demandé à l'un et à l'autre le son qui vous résume. Alors, je dois dire que, dans votre cas, Simon Gréchy, le son qui vous résume, c'est tout à fait particulier. Il faut expliquer que vous collectionnez les sabliers.
Je collectionne des sabliers.
Entre autres excentricités.
J'en ai beaucoup. Chez moi, mon piano est orné de sabliers. Je sais pas qui aime, ne compte pas. Je les compte pas. Je sais pas. Mais ça va de toute taille. Ça va du petit sablier pour préparer le thé ou l'œuf à la coque au sablier géant qui fait 12 heures, qui doit faire 1m20 environ. Donc, effectivement, c'est un objet qui me tient à cœur. Parce que ça représente et le son en fait dont
qu'on alors va, justement écouter. Le son qu'on va écouter, c'est le son du sablier qui s'écoule.
Oui et ça représente pour moi, c'est à la fois un mélange d'angoisse et d'apaisement. C'est très oxymorique, c'est les deux en même temps, parce que l'angoisse de savoir que le temps est emprisonné, que le temps coule et que ce soit visionné et qu'on le regarde couler avec cette fluidité qui, enfin, implacable, qui nous dépasse tous, et en même temps, ce petit son de les cristaux de verre.
Parce
on pense qu'il y a du sable à l'intérieur, mais en réalité, c'est de la poudre de verre.
C'est de la poudre de verre.
Voilà, je vous dévoile les secrets des fabricants de sabliers maintenant, parce que le sable grignote le verre de l'intérieur.
Alors, nous avons fait toute une installation dans le studio de France Inter pour écouter le son du sablier. Alors, on y va. Retournez le sablier, Simon. On écoute le son qui vous résume. C'est magnifique. Heureusement que j'ai dit que c'était le son du sable, du sablier, parce que de la poudre de verre, parce que c'est vrai que c'est un son un peu avant-garde, on va dire. Hein. Bah, merci beaucoup, Simon Gréchy, de nous avoir conviés à ce moment, finalement, assez apaisant, je trouve. Alors, dans votre cas, Jake Lamar, le son qui vous résume, c'était impossible à notre équipe, à Juliette Medeviel et à toute l'équipe, de réussir à trouver ce son.
Je n'ai pas bien compris la question.
Alors,
je pense
le son qui vous résume, vous dites, c'est le rire de ma femme, la comédienne Dorly Lamar.
C'est ça.
Oui,
qu'est-ce
qu'il
y a? Alors, comédienne et chanteuse.
Alors, nous n'avons pas l'enregistrement du rire de votre femme, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous le décrire?
C'est plein de joie, c'est plein de spontanéité. Elle rit souvent. Hein, elle est quelqu'un d'un caractère.
Non, mais tout le monde quand on rit, on est toujours plein de joie quand on rit. Mais est-ce que c'est un quel est l'effet de ce rire sur vous?
Je pense que il y a une qualité musicale, je dirais. Elle est chanteuse et peut-être il y a une musique dans son rire qui m'a touché profondément.
Alors j'ai été regarder ce que faisait Dorly Lamar sur Internet, hein, quand j'ai appris ça, et j'ai vu qu'elle a joué dans plusieurs spectacles, encore récemment d'ailleurs.
Oui, en fait, elle a fait son grand amour dans le monde musical, c'est Kurt Weill. Et elle a Kurt Weill, Brecht Weill, elle a fait une pièce, une espèce de cabaret qui s'appelle Année folle, année noire, de Berlin à Paris, en chanson, entre 1919 et 1945. Et elle a créé ce spectacle avec un chanteur qui s'appelle Jacques Gomez et un pianiste. C'était juste les trois sur les scènes. Et c'était un très beau spectacle. Et elle adore cette époque, cette musique.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors nous atteignons le point le plus intense de l'émission, celui où vous me racontez votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors Simon Gréchy, vous allez nous entraîner, si j'ai bien compris, dans l'archipel du Vanuatu.
Oui. Le Vanuatu, que je ne savais pas mettre sur une carte avant de prévoir ce voyage au Vanuatu. À l'époque, je vivais en Australie, j'ai vécu 9 mois en Australie,
à Sydney. En Australie.
Et je cherchais des choses à faire dans le coin, en dehors de l'aseptisation australienne qui m'a complètement exaspéré. Je cherchais à faire des choses un petit peu plus sauvages, un peu plus out of control. Et un ami à moi m'a dit, il faut que tu ailles au Vanuatu, il y a un volcan en activité, hyper accessible. Mais vu que c'est au moins 48 heures de voyage depuis n'importe quelle capitale européenne ou américaine, personne n'y va.
Tu vas te retrouver tout seul là-bas. Votre goût du volcan.
Mais ça a démarré là. C'était le premier voyage volcan en 2012, en juin 2012. Et je vais, pour l'anecdote, je vais dans une agence de voyage pour voir déjà où c'était le Vanuatu, comment on y allait depuis Sydney. J'avais regardé sur Internet, j'ai trouvé un autre volcan avec un lac de lave à l'intérieur. La bonne femme dans l'agence me dit... Vous n'avez pas un look pour aller à Umbrem. Umbrem, c'était le nom de notre volcan. Et ça m'a complètement choqué, mais j'ai un look à faire quoi? Et elle me dit que voilà, c'est hyper inaccessible et qu'elle allait me booker un autre volcan. Bon, j'étais un peu déçu, mais j'y suis allé quand même. Et là, j'arrive dans une île sans électricité, sans eau courante, sans infrastructure, sans route goudronnée, avec des tribus qui vivent encore avec ce qu'ils produisent, les œufs de la poule et la brebis qu'ils ont dans le jardin et le lait de la vache. Et pendant 3 jours, c'était un trek, on est arrivé sur le sommet du volcan, et là, en pleine nuit, c'était un spectacle de feux d'artifice toutes les 5-6 minutes. La terre tremblait, on n'avait qu'une envie, c'est de prendre nos jambes et de partir en courant, tellement c'était effrayant, normes de sécurité zéro, mais en même temps tellement magique, où je pleurais et je riais en même temps, et c'est de là où est venue ma passion pour les volcans.
Alors écoutez, c'est formidable, vous avez beaucoup parlé, mais c'était vraiment passionnant et j'étais complètement en haleine. Juste un mot pour vous, Jake Lamar, parce qu'on a très très peu de temps, simplement pour vous, c'est beaucoup plus calme, puisque c'est une petite maison dans les Alpes suisses, près de Locarno, et on voit passer de temps en temps une chèvre.
C'est un chèvre de montagne, oui, c'est génial, oui.
Je vous crois, je veux bien le croire en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Jake Lamar et Simon Gréchy. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors, Simon Gréchy, votre disque 33 est sorti chez Deutsche Grammophon. Longue est la liste de vos concerts d'été. Vous serez le 25 à Lille, en Alsace les 26 et 27 juillet, bien sûr. Puis à Saint-Bertrand-du-Comminges, en Haute-Garonne, le 6 août. Enfin, au Blanc-Mesnil, le 30 août. Jake Lamar, on peut réécouter sur le site de France Culture votre feuilleton radiophonique Viper's Dream en attendant un prochain roman, et vous enseignez le Creative Writing, je tiens à le préciser, à Sciences Po Paris. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation d'Estivalitude est assurée par Juliette Medevielle. L'émission a été préparée par Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon, à la technique Charles Péladon. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai une grande romancière, Simonetta Greggio, et un réalisateur qui est aussi critique cinématographique, Nicolas Saada. Ah, Laurent Delmas est arrivé pour la minute philosophique. Alors Laurent, quel sens faut-il donner à l'existence ?
Quel jaloux ! Eh bien, nous lui donnerons le sens de Sandra Nkake, actrice et chanteuse camerounaise française, avec elle on parlera de Spielberg, de Von Trier, de Almodovar, Sissako et bien d'autres encore à travers évidemment les chansons de leurs films.
Merci beaucoup, je suis éclairé.
Merci.